Donc, voyez cette chose très importante que saint Thomas souligne. Nous pouvons diminuer quant aux vertus acquises. Il peut y avoir une diminution. Pourquoi? La grande raison, c'est que ces vertus acquises sont acquises par nos actes. Donc la source de ces vertus acquises, ce sont nos actes. Par le fait même, si je bouge la source, je diminue, je tarie. Donc, la vertu morale peut diminuer. La vertu infuse de charité ne peut pas diminuer. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas causée par nos actes. C'est très simple comme raisonnement. Mais elle peut disparaître. Parce que nos actes peuvent nous mettre dans une situation telle qu'on tourne le dos à Dieu. Un acte d'orgueil. Un acte de faute grave.
Oui. Est-ce que ça existe vraiment que comment on arrête de poser l'acte de charité? La charité n'est pas pour le point de diminuer ni détruire, si du moins le péché n'est pour rien dans cette cessation. Est-ce que ça peut vraiment exister que le péché ne joue aucun rôle dans un. On cesse de poser des.
Un péché mortel. Oui. Vous êtes attentif, des actes, c'est toutes les fameuses questions des actes d'imperfection, vous voyez. Toute la question de. Vous êtes moins fervent, vous vous laissez un peu aller. Hein? Ça peut arriver, ça. Hein? Alors, est-ce que ça diminue votre charité? Non. Mais ça met en vous une disposition. Pas bonne. C'est pour ça qu'on dira attention. Maintenant, vous, une disposition pas bonne qui fait que vous tomberez plus facilement dans le panneau. Bon. On arrête maintenant? On fait une petite pause. Ah oui, et alors on reprend combien?
26 janvier 1983, deuxième conférence.
2. Saint Augustin, à propos de la charité, peut-elle diminuer? Saint Augustin dit, en s'adressant à Dieu, il t'aime moins celui-là qui aime quelque chose avec toi. Il dit encore, ce qui nourrit la charité diminue la convoitise, d'où il apparaît qu'à l'inverse, l'accroissement de la convoitise entraîne une diminution de la charité. Or, la convoitise par laquelle on aime quelque chose d'autre que Dieu, peut croître chez l'homme. La charité peut donc diminuer. Alors, réponse. Il y a 2 convoitises. La première met sa fin dans la créature et elle tue totalement la charité, étant, selon le mot de saint Augustin, son poison. Elle aboutit à faire moins aimer Dieu qu'il ne doit l'être par la charité, non à la vérité en diminuant celle-ci, mais en la détruisant totalement. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre la parole de l'objection. Il t'aime moins celui qui aime quelque chose avec toi. Saint Augustin précise en effet, quelque chose qu'il n'aime pas pour toi, ce qui n'a pas lieu dans le péché véniel, mais seulement dans le péché mortel. Car ce que l'on aime dans le péché véniel, on l'aime encore pour Dieu, en vertu de l'habitus, quoiqu'on ne l'aime plus en acte. C'est très joli ça. La seconde sorte de convoitise est celle du péché véniel, qui est toujours diminuée par la charité. Mais elle ne peut diminuer la charité pour la raison donnée plus haut. Donc, la charité diminue la convoitise et la concupiscence. Mais la convoitise et la concupiscence, quand elle n'est que vénielle, ne peut pas diminuer la charité. C'est pas, voyez, inverse. Avec l'objection continue à dire, si ça le fait d'un côté, ça le fait de l'autre. C'est pas toujours vrai, ça. Ce n'est pas les mêmes motifs. Alors, voyons encore la troisième objection. C'est du Saint-Augustin, voyez là. Saint-Thomas fait l'exégèse de Saint-Augustin. Dieu, dit Saint-Augustin, ne perd pas en justifiant l'homme de telle façon que son œuvre demeure en celui-ci, s'il vient à se retirer. D'où l'on peut conclure que Dieu, en conservant la charité dans l'homme, opère de la même manière que lorsqu'il l'infuse en lui pour la première fois. Or, lorsque Dieu infuse la charité pour la première fois, il l'infuse moins grande chez celui qui s'y dispose moins. De même, lorsqu'il la conserve, devra-t-il la conserver moins grande chez celui dont les dispositions sont moins bonnes. Par conséquent, la charité peut diminuer. Réponse. Un mouvement du libre arbitre est nécessaire pour l'infusion de la charité, comme nous l'avons dit. Et c'est pourquoi ce qui diminue l'intensité du libre arbitre contribue comme disposition à ce qu'une charité moindre soit infusée. Mais pour conserver la charité, il n'est pas besoin d'un mouvement du libre arbitre. Autrement, la charité ne diminuerait pas chez ceux qui dorment. Autrement, la charité ne diminuerait point, pas chez ceux qui dorment. Par conséquent, le défaut d'intensité du mouvement du libre arbitre ne peut pas amener une diminution de la charité. Vous voyez la chose. C'est que pour acquérir la charité, il faut le libre arbitre, mais pas pour conserver la charité. Donc la raison n'est pas la même, n'est-ce pas ? Alors, une fois qu'on possède la charité, peut-on la perdre ? On l'a déjà vu, ça. Ici, on le reprend d'une façon plus précise. Il est dit dans l'Apocalypse, « J'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. » Église d'Éphèse. Conclusion. Par la charité, l'Esprit Saint habite en nous comme le fait voir ce qui précède. Partant de là, nous pouvons considérer la charité de trois façons. Tout d'abord, du côté de l'Esprit Saint, mouvant l'âme à aimer Dieu. De ce chef, la charité ne peut pas pécher. De ce chef, la charité ne peut pas pécher à cause de la vertu de l'Esprit Saint, qui opère infailliblement tout ce qu'il veut. C'est pourquoi il ne saurait être vrai simultanément et que la charité veuille mouvoir et que l'Esprit Saint veuille mouvoir quelqu'un à l'acte de charité et que celui-ci perde la charité en péchant, puisque le don de persévérance doit être compté parmi les bienfaits de Dieu grâce auxquels ceux qui sont délivrés le sont infailliblement, selon l'expression de saint Augustin. Ça, c'est très net. La charité provient de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne peut pas être cause de nous faire perdre la charité. Bien évident. L'Esprit Saint n'a jamais de mauvaise humeur. N'est-ce pas ? Alors, il ne peut pas faire perdre la charité. On peut, en deuxième lieu, envisager la charité dans sa nature propre. Et sous ce rapport, la charité ne peut que ce qui convient à la raison même de charité. C'est pourquoi elle ne peut en aucune façon pécher, pas plus que la chaleur ne peut refroidir, et l'injustice produire quelque chose de bon, comme le dit encore saint Augustin. Ça aussi. La charité ne peut pas lutter contre elle-même, c'est-à-dire elle ne peut pas se diminuer par elle-même. La charité ne peut qu'intensifier l'amour. On peut enfin considérer la charité par rapport au sujet, lequel est changeant au gré du libre arbitre. Mais ce rapport de la charité au sujet peut lui-même être envisagé de deux façons. Soit du point de vue général des relations de la forme avec la matière, soit du point de vue particulier des relations de l'habitus avec la puissance. Alors ça, c'est très intéressant, au point de vue philosophique. Premièrement, il appartient à une forme d'exister dans un sujet de façon admissible, lorsqu'elle ne comble pas toute la potentialité de la matière, comme on le voit pour les formes des êtres soumis à la génération et à la corruption. La matière de ces êtres reçoit en effet une forme de telle manière qu'elle reste encore en puissance à une autre forme, comme si la potentialité de la matière n'était pas totalement remplie par une seule forme. Dès lors, une forme peut se perdre par réception d'une autre forme. Par contre, la forme d'un corps céleste demeure en lui de façon inadmissible, parce qu'elle comble si bien toute la potentialité de la matière qu'il ne reste plus en celle-ci de puissance à une autre forme. Ainsi en est-il de la charité. Celle du ciel est inadmissible, car elle emplit toute la potentialité de l'esprit, en ce sens que tout mouvement actuel de celui-ci se porte vers Dieu. La charité d'ici-bas, elle, ne comble pas ainsi toute la potentialité de son sujet, parce qu'elle ne se porte pas toujours en acte vers Dieu. Quelque chose alors peut survenir qui fasse perdre la charité. Et ceci, c'est à cause de la foi. Certainement, elle ne le souligne pas, mais c'est à cause de la foi. Parce que la charité est reçue en nous à travers la foi. Si la charité était reçue dans la lumière de foi, dans la lumière de vision, elle serait entièrement en acte. Et donc, il ne pourrait plus y avoir de perte de la charité. Vous ne pouvez pas pécher quand votre charité est en acte. Quand vous faites un acte volontaire d'aimer Dieu, vous ne pouvez pas pécher. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de lieu pour pécher. Mais vous pouvez pécher quand vous n'êtes pas en acte de charité. Alors à ce moment-là, le démon peut s'approcher. Mais quand vous êtes en acte de charité, c'est facile. Or, à cause de la foi, on n'est pas toujours en acte de charité. Et c'est à cause de ça qu'il peut y avoir péché. Deuxièmement, c'est le propre de l'habitus d'incliner la puissance à agir selon ce qui lui convient, en faisant paraître bon ce qui lui convient et mal ce qui lui répugne. Comme le goût, en effet, apprécie les saveurs selon sa disposition propre, de même l'esprit humain juge ce qu'il doit faire d'après son habituelle disposition. Ce qui fait dire à Aristote, chacun apprécie la fin selon ce qu'il est lui-même. Ainsi donc, la charité sera inadmissible là où ce qui convient à la charité ne pourra paraître autrement que bon, c'est-à-dire dans le ciel, où Dieu sera vu par son essence, qui est l'essence même de la bonté. Mais la charité de la terre, elle, peut se perdre, car elle est celle d'un état où n'est pas vu l'Esprit de Dieu, puisqu'il est le bien essentiel. Donc vous voyez les deux manières dont saint Thomas montre que la charité peut être perdue. Il reprend les trois aspects un peu différemment que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Exactement la même division qu'il donne. C'est intéressant parce que c'est le même aspect qu'il prend. La charité peut être, comme toute forme, peut être considérée selon sa cause propre. En elle-même, relativement au sujet. Triple considération, on l'a déjà vu. Alors, selon sa cause propre, la charité ne peut pas être perdue. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien immédiat entre la charité et l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint ne peut jamais vouloir la perte de ce qu'il donne. L'Esprit Saint ne peut pas se contredire lui-même. C'est l'Esprit Saint qui nous communique la charité, la communion avec l'Esprit Saint, C'est l'Esprit Saint qui nous communique la charité, et parce que l'Esprit Saint nous communique la charité, l'Esprit Saint ne peut pas nous communiquer l'inverse de la charité. Ça, c'est bien évident. L'Esprit Saint ne peut que nous communiquer son amour. Bon, pas de possibilité de fuite là. La charité considérée en elle-même, la charité ne peut pas se contredire, puisqu'elle est un amour à l'égard de Dieu, essentiellement. Donc elle ne peut pas. Donc pas de fuite non plus ici. La troisième fuite, c'est du côté du sujet. Et alors ici, saint Thomas prend une double comparaison. La comparaison de la forme par rapport à la matière, la comparaison de l'habitus par rapport à la puissance. C'est assez curieux, Dieu a ça. Ça, c'est assez curieux que saint Thomas prenne la double comparaison par rapport au sujet. Forme à l'égard de la matière. Tous les êtres physiques sont corruptibles. Et ça cause de la corruptibilité, saint Thomas prend ça. Autrement dit, sommes-nous corruptibles dans l'ordre de notre vie divine? Eh bien, on est corruptible dans l'ordre de la vie divine comme les réalités physiques sont corruptibles. Pourquoi les réalités physiques sont corruptibles? C'est parce que, justement, la forme qui vient déterminer la matière n'épuise pas toute la potentialité de la matière. Donc, il demeure une indétermination. Alors, il peut y avoir des virus qui viennent, des virus étrangers qui viennent combattre et empêcher et faire que cette forme soit chassée et qu'une autre forme prenne la chose. Et c'est pour ça qu'il fait la différence entre ici sur la Terre, oui, la matière sur laquelle est cette forme, évidemment, c'est la volonté. Ici, la charité. Mais bien, là, l'analogie. Or, au ciel, la volonté, la charité sera, Dieu étant vu en lui-même, la charité sera toujours en acte. Donc elle ne peut pas disparaître. Parce que la charité va épuiser complètement et totalement la potentialité de la volonté. L'autre comparaison, c'est habitus à l'égard de la puissance. C'est vrai, la charité, c'est assez curieux comme chose. Ça, c'est intéressant, cette double analogie. La charité est à l'égard de la volonté comme la forme à l'égard de la matière. La charité est à l'égard de la volonté comme l'habitus à l'égard de la puissance. De deux aspects différents, parce que ici, la puissance, c'est du côté de l'opération, et qui fait que la puissance, l'habitus vient perfectionner la puissance et lui permettre d'opérer. Et alors, l'habitus ici peut de fait disparaître en face de quelque chose qui est contraire. C'est-à-dire qu'il y a le libre arbitre. Notre puissance peut vouloir autre chose que la charité, quand la charité n'est pas en acte. Si la charité est en acte, c'est impossible, mais quand la charité est à l'état habituel, oui. Bon. Je prends la seconde objection, ça me semble la seule intéressante. Saint Augustin dit, la dilection qui n'est pas vraie ne mérite pas son nom. Or, comme il le dit encore, la charité peut défaillir. La charité qui peut défaillir n'a jamais été vraie. Par conséquent, il n'y avait pas de charité. Donc, quand on possède la charité, on ne peut plus la perdre. Réponse. La charité qui comprendrait dans sa raison même la possibilité de pécher ne serait pas une vraie charité. C'est le second raisonnement. La charité en elle-même n'implique pas de contrariété. Si la charité impliquait en elle-même une contrariété, elle ne serait pas une vraie charité. La charité par elle-même ne peut qu'aimer Dieu. C'est bien évident. Donc, la charité qui comprendrait dans sa raison même la possibilité de pécher ne serait pas une vraie charité. S'il était en effet de la nature de l'amour de n'aimer que pour un temps, et ensuite de cesser d'aimer, ce ne serait pas de la dilection véritable. Oui. L'amour réclame la fidélité. Autrement dit, c'est ça que ça veut dire. L'amour est par lui-même fidèle. Un amour infidèle n'est plus un amour. Vous voyez ? Un amour qui comporterait en lui-même une infidélité, qui accepterait en lui-même une infidélité, ne serait plus un amour. Mais si la charité vient à se perdre du fait de la mutabilité du sujet, comme contre l'intention même de la charité, qui est incluse en son acte, cela n'est pas contraire à la vérité de la charité. Ce n'est pas contraire à la vérité de la charité qu'il existe dans la volonté, dans notre volonté, une capacité de se détourner de l'amour. Puisqu'elle reste toujours avec le point de vue du libre arbitre. Et pourquoi la charité demeure-t-elle dans le sujet avec le libre arbitre? C'est à cause de la foi. La charité n'est pas toujours en acte. Parce que je ne vois pas le bien que j'aime. Le jour où je verrai Dieu dans sa bonté, je ne pourrai plus me détourner de lui. Mais je peux me détourner de lui parce que je ne le vois pas dans sa bonté. Et que je ne suis pas toujours en acte. Il y a les deux raisons, vous voyez. Pas de difficulté. La charité peut-elle se perdre par un seul acte de péché mortel? C'est, je crois, le dernier article de la question. Par le péché mortel, l'homme devient digne de la mort éternelle. Selon la parole de l'apôtre, le salaire du péché, c'est la mort. Stipendia peccati mors. C'est l'épître aux Romains. Mais quiconque a la charité possède le mérite de la vie éternelle. Il est dit en effet en Saint Jean, celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Et la vie éternelle consiste précisément dans cette manifestation, selon cette autre parole du même livre, la vie éternelle est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé Jésus-Christ. Mais personne ne peut à la fois être digne de la vie éternelle et de la mort éternelle. Il est donc impossible que quelqu'un ait la charité avec le péché mortel. Par conséquent, la charité est perdue par un seul péché, par un seul acte de péché mortel. Oui, petit raisonnement très simple. Et simplement, vous voyez le rapprochement des textes. Hein. Vous rapprochez des textes qui sont... Il n'y a pas de raisonnement, c'est simplement rapprocher des textes. Les textes de l'Écriture. Alors, le raisonnement de saint Thomas. Un contraire est exclu quand survient un autre contraire. Or, tout acte de péché mortel est contraire à la nature même de la charité, qui consiste pour l'homme à aimer Dieu par-dessus tout. Et à se soumettre à lui totalement, en lui rapportant tout ce qu'on lui possède, tout ce que l'on possède. Donc, on voit bien ce point de vue-là, qu'un contraire est exclu quand survint un autre contraire. Les contraires ne peuvent pas rester simultanément dans le même sujet. C'est ça que ça veut dire. Un contraire ne peut pas rester. Le sujet ne peut pas porter simultanément deux contraires. Parce que c'est propre des contraires. Les contraires s'excluent. Alors, quel est le contraire de la charité, de l'amour à l'égard de Dieu? C'est le péché. Le péché mortel. Le péché mortel nous fait nous détourner de Dieu. Alors que la charité nous fait nous porter vers Dieu. Donc, c'est le contraire. Il est donc essentiel à la charité d'aimer Dieu de telle sorte qu'on veuille se soumettre à lui en toute chose, et qu'en toute chose on suive la règle de ses commandements. Car tout ce qui est contraire au précepte divin est manifestement contraire à la charité et peut donc l'exclure. Facile à comprendre. Sans doute, si la charité était un habitus acquis et dépendant ainsi de l'activité du sujet, sa perte ne résulterait pas nécessairement d'un seul acte contraire. Ça, c'est très important à comprendre. Hein ? Quand vous avez un habitus acquis, l'habitus d'humilité, parce que c'est celui-là qu'on a le mieux, n'est-ce pas ? Alors, quand on a l'habitus acquis, l'habitus d'humilité, la vertu d'humilité, vous avez la vertu d'humilité, il vous arrive de faire un acte de contraire à cette vertu d'humilité, d'orgueil. Votre vertu acquise d'humilité ne disparaît pas à cause d'un acte, parce qu'il a fallu des quantités d'actes pour l'acquérir. Ouais, ça ne s'acquiert pas par un seul acte. Une hirondelle ne fait pas le printemps, comme disait Aristote. Et donc, un acte d'humilité ne vous donne pas la vertu d'humilité. C'est sûr, un acte d'humilité ne vous donne pas la vertu. Il faut beaucoup d'actes d'humilité pour acquérir la vertu d'humilité. C'est pour ça qu'il faut toute sa vie pour acquérir la vertu d'humilité. À la fin de sa vie, on peut dire, j'ai acquis un peu d'humilité. Il a fallu beaucoup d'actes d'humilité. Alors, parce qu'il a fallu beaucoup d'actes d'humilité pour acquérir la vertu d'humilité, un seul acte d'orgueil ne détruit pas la vertu d'humilité. Tandis que quand il s'agit des vertus infuses, elles nous sont données gratuitement. Elle a raison, une fragilité tout à fait particulière. Un seul acte de péché détruit la vertu. Il n'y a rien de plus fort que les vertus théologales et il n'y a rien de plus fragile. C'est ce que ça veut dire, on est dans les vases d'argile. C'est très curieux ça, ça m'a toujours beaucoup frappé ça. Parce que à première vue, ça semble curieux, quoi. On se dit, mais non, les vertus théologales c'est quand même bien plus fort que les vertus acquises. Et donc, si les vertus acquises ne sont pas détruites par un seul acte contraire à ces vertus, les vertus infuses doivent demeurer. Il faut bien comprendre que les vertus infuses sont infusées directement par Dieu et donc me mettent dans cette dépendance actuelle à l'égard de Dieu. Si par le péché mortel je me détourne de Dieu, je me détourne de ma source. Et donc un seul acte détruit la charité.
Est-ce que c'est senti?
Qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce que c'est senti dans notre...
Non. Non, parce que la charité, la vie divine est au-delà de ce que vous pouvez sentir. L'Esprit Saint peut vous le faire sentir, alors par mode d'expérience intime, mais pas par mode de conscience psychologique. La seule chose que vous pouvez avoir comme... La seule, vous voyez, c'est ça qui est très important, je crois, à saisir. Le seul point de vue psychologique que vous pouvez avoir comme conscience, c'est que vous avez un désir de faire tout ce que Dieu veut. Et que si après une faute, on revient immédiatement et demande pardon à Dieu, on a ce désir d'être aimé. Donc c'est la volonté d'aimer qui est la seule chose psychologique que je connaisse. Ma volonté d'aimer. Ma volonté de demeurer en union avec Dieu. Je ne peux pas savoir, nul ne sait s'il est objet d'amour ou de haine. Hein. C'est la fameuse parole que je repris, nul ne sait. Alors il faut bien comprendre. Ça ne veut pas dire que pratiquement on doit toujours se dire, ah, je ne sais pas. Vous voyez, c'est la parole de Jeanne d'Arc. Si je ne suis pas dans la charité, que Dieu me mette. Ça, c'est vraiment ça qu'on doit dire. Vous voyez ? Parce qu'on pratique, scientifiquement, je veux dire, spéculativement, vous ne pouvez pas savoir. Et pratiquement, vous pouvez savoir dans le sens que vous avez un seul désir, c'est d'être conforme à la volonté. Tandis qu'autrement, vous tomberiez dans l'illuminisme. Mais Jeanne d'Arc était certaine de ses voies, mais elle n'était pas certaine d'être en charité. C'est très beau, tout ça. Elle était certaine de ses voies. Elle n'était pas certaine de la charité. la charité divine en elle. Sans doute, si la charité était un habitus acquis et dépendait ainsi de l'activité du sujet, sa perte ne résulterait pas nécessairement d'un seul acte contraire. Car un acte n'est pas directement contraire à l'habitus, mais à l'acte de celui-ci. Or, il ne s'impose pas pour la conservation d'un habitus dans un sujet qu'il y ait une continuité d'actes. Par conséquent, s'il survient un acte contraire, l'habitus acquis n'est pas aussitôt supprimé. Mais la charité est un habitus infus. Elle dépend donc de l'action de Dieu qui la communique à l'âme et qui agit dans l'infusion et dans la conservation de la charité à la manière du soleil dans l'illumination de l'air, comme nous l'avons dit plus haut. C'est pourquoi, de même que la lumière cesserait aussitôt dans l'air si l'on fait obstacle au rayonnement du soleil, de même la charité cesse d'être dans l'âme dès qu'un obstacle est mis à l'influx par Dieu de la charité. Or, manifestement, tout péché mortel allant à l'encontre des préceptes divins met un obstacle à cet influx, du seul fait que par un choix libre, l'homme préfère le péché à cette amitié avec Dieu, qui exige l'accomplissement de la volonté immédiatement par un seul acte de péché mortel. L'habitus est perdu. C'est pourquoi saint Augustin dit « Dieu lui étant présent, l'homme est illuminé, mais il est dans les ténèbres du moment que Dieu n'est plus là. S'il s'en éloigne, ce n'est pas par des distances de lieu, mais par le détournement de sa volonté. » Donc ceci, c'est très net. Et c'est facile à comprendre s'il s'agit de voir la cause, tout simplement. Quelle est la cause des vertus acquises? Quelle est la cause des vertus infuses? Et c'est pour ça qu'un seul acte contraire à l'amour de Dieu, donc un seul acte de péché mortel, supprime la charité. Alors qu'un seul acte contraire à une vertu acquise ne supprime pas la vertu acquise. Oui.
Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas penser s'accumuler un capital de charité, vous voyez, et puis bon, ben, pécher après, puis ensuite, non, et ensuite attendre au ciel ben, que le capital d'acte de charité qu'on a posé toute sa vie nous rende quand même quelque chose?
C'est la fameuse question, vous savez, de savoir, quand on a péché, est-ce qu'on retourne en demande pardon à Dieu, est-ce qu'on retourne à la première charité, au degré de la charité qu'on avait? Oui. J'arrive à ce degré. C'est la dégringolade dans la montagne. Je monte. Donc j'arrive ici. C'est trop dur, ça. C'est un peu trop raide. Alors, je m'arrête et je pêche. Je tombe. Alors, est-ce que je vais retomber ici? La dégringolade. Si je reviens et je me convertis, est-ce que je repars à ce degré-ci ou à ce degré-là?
Plus haut.
Je repars encore plus haut.
Venez.
Je repars avec l'intensité de charité que j'avais au moment de la fête du jour. C'est grâce à Dieu, oui, c'est ça.
C'est la scolastique.
Je repars avec la grâce de Dieu. Dieu me rend la grâce que j'avais au moment de ma chute. Oui. L'intensité, il s'agit de l'intensité de la charité, de l'enracinement de la charité. Oui. Je ne repars pas à zéro. Vous voyez, j'ai fait des efforts pendant un certain temps. Hein. Puis là, catastrophe. remarqué que quand je suis en montée croissante, normalement, je ne dégringole pas. Avant de dégringoler, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, il y a eu un plafonnement. C'est ça qu'il faut voir. Hein, il y a eu un plafonnement. Je me suis dit non, maintenant, ben, voilà. J'ai compris, pas la peine de faire d'efforts. Alors, j'ai compris. Alors, on fait un haut plateau. Et c'est quand on est dans le haut plateau, déjà depuis un certain temps, qu'on dégringole.
Et Adam?
Quoi?
Adam.
Ah, Adam, il montait, je crois. Mais peut-être que il a... Adam, c'est Ève qui l'a pourri. Là, vous allez dire, et Ève? Et Ève, c'est parce qu'elle s'est séparée d'Adam. Oui. Alors qu'ensemble, ils étaient une forteresse. Mais c'est sûr que celui qui monte et qui continue de monter ne peut pas pécher. Parce que c'est la ferveur qui continue. Mais c'est celui qui arrête la ferveur. C'est toujours comme ça. Il y a un arrêt de ferveur. Alors vous ne dégringolez pas parce qu'il n'y a pas de diminution de la charité. Mais vous restez sur un haut plateau. On s'embourgeoise. Alors on reste sur le haut plateau. Alors parce qu'on se reste sur le haut plateau, et qu'il n'y va pas. Alors c'est à ce moment-là. Ça peut durer un certain temps parce que Dieu est bon. Mais tout d'un coup. Oui. Le démon guette les moines sur les hauts plateaux. Qu'est-ce qu'il y a? Il donne la grâce. Bon, il y a la chute, il y a la conversion, et qui fait qu'à partir de là, on va repartir. Non. Ah oui, ah, parce que la grâce d'Adam, c'est tout à fait différent. Ça, c'est vous. Oui, je vois ce que vous voulez dire comme question. Adam n'est pas retourné en justice originelle. Mais ça, c'est un cas unique. Parce que Adam était considéré comme chef de l'humanité. C'est la comparaison qu'on fait avec les deux Adam, autrement ça ne signifie rien du tout. Pourquoi on fait la comparaison avec le Christ nouvel Adam? Parce que le Christ est chef de l'humanité, voyez. Donc c'est comprendre que Adam était chef de l'humanité. Alors parce qu'Adam était chef de l'humanité, il était responsable de toute l'humanité, et le péché lui a fait que, de fait, il n'a pas redécouvert, après qu'il s'est confessé, il n'a pas redécouvert la grâce de justice originelle. Il n'a pas pu retourner dans le paradis terrestre. C'est pour ça qu'il en a tant voulu à Ève. Et ça comprend que les hommes, depuis, en ont tant voulu à Ève. Oui. C'est une vieille rancœur, ça, de famille. C'est une chose qui reste très, très enracinée. Oui. Alors, il n'est pas retourné dans la justice originelle. Ni Ève. Ils ont perdu l'état de justice originelle. Oui, dites. La chute. Ah oui, c'est le péché mortel que je parle. Hein.
Donc, il suffit de faire un acte de...
Quoi?
Il suffit de refaire un acte d'amour envers Dieu pour être de nouveau au même...
Oui, pour être de nouveau au même là. Exactement. Tout à fait. La grâce vous est redonnée avec la... C'est merveilleux, c'est la miséricorde de Dieu, ça. Parce que Dieu sait qu'on est faible. Vous voyez? C'est pas venez, on ne redégringole pas au point de départ. C'est qu'il y a eu quand même une grâce que Dieu nous a augmentée. Alors on repart avec ce capital de grâce que Dieu nous a donné. Oui. Que? C'est parce que la miséricorde de Dieu fait que, de fait, Dieu regarde. Vous voyez, notre faiblesse. Vous avez quand même progressé. Pendant 10 ans, vous êtes resté à progresser. Vous avez monté. Bon. Puis, il peut y avoir un moment de lassitude. C'est au bout de 10 ans, vous voyez. Et maintenant, c'est un peu plus vite, ça fait 7 ans. Et avant, c'est 10 ans. Maintenant, c'est 7 ans, parce que tout va plus vite. Alors au bout de 7 ans, il y a un peu de lassitude. C'est vrai, ça, c'est très... D'une façon générale, vous progressez dans un certain temps, et puis alors au bout de 7 ans, il y a de la lassitude. les vieux prophètes de quelques années, c'est beaucoup plus difficile à mener que des novices. Beaucoup plus difficile. Alors, il y a un peu de lassitude. Alors il y a une lassitude qui fait qu'ils ne montent plus. Ah, ils ne pêchent pas, non, ils ne montent plus. Mais... Alors on leur dira, un vieux permette leur dira, attention, attention, vous n'avez plus la première ferveur. C'est ce que Jésus dit, c'est ce que Dieu, le Christ dit à l'église d'Éphèse. Vous n'avez plus la même ferveur. Et si vous il ne lui fait pas un reproche de choses, il dit, vous n'avez plus la même ferveur, donc vous ne progressez plus. Et n'ayant pas plus la même ferveur, vous êtes au fond dans un état de quelqu'un qui risque de tomber. Vous voyez, celui qui reste au plateau, et quand il est là, il a commencé ici, il est dans un état de faiblesse plus grande quand il est là que quand il est là, parce qu'il a perdu du temps. Perdre du temps n'est pas une diminution de charité, mais perdre du temps, c'est se mettre dans un état de fragilité. Toujours ce que fait le démon. Le démon commence toujours par nous faire perdre du temps. Toujours. Le démon ne va pas directement nous faire tenter, mais il nous fait perdre du temps. Et alors, dans la mesure où on perd du temps, on est dans un état de fragilité plus grande. Et la faute, alors, arrive après un certain nombre de pertes de temps. Ah, si on s'est rattrapé avant, c'est bon. Mais si on ne s'est pas rattrapé avant, et alors, là, la chute. La chute qui fait qu'on dégringole hein, complètement. Mais quand Dieu nous reprend, vous voyez, heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur, Dieu nous redonne la grâce première. Alors vous allez me dire dans quel texte de l'Écriture c'est. Je crois que ça c'est à la miséricorde. Vous voyez, Dieu ne traite pas par justice, mais par miséricorde. Et c'est en raison de la miséricorde que vous pouvez le dire. En raison de la justice, vous devriez tout recommencer. Mais en raison de la miséricorde, on comprend qu'on ne recommence pas tout. Dieu nous redonne. Vous voyez ? Dieu ne prend jamais en traître, autrement dit. Dieu sait qu'on a eu ces 10 années de fidélité, quand même. C'est quand même quelque chose. Ou ces 7 années de fidélité. Alors, c'est déjà autre chose. C'est pas tout. On peut arriver au sommet, mais c'est déjà quelque chose. Oui.
Jésus reprend les 3 reniements de Saint-Pierre en lui demandant 3 fois même dessus.
Oui.
Pour ne pas y voir là à nouveau un point de départ.
Oui, un nouveau point de départ. Pour repartir avec un nouvel élan. Sûrement. Ce seraient les conversions. Vous savez, il va y avoir les conversions dans l'Écriture. On verrait. Je ne crois pas qu'il s'est dit explicitement dans l'Écriture. Je crois que c'est le raisonnement profond du fait de la chute du péché qui fait que. Nous ne repartons pas au point de départ, mais tout ce qui était, au fond, c'est la conséquence un tout petit peu de l'acquis, vous voyez. Il y a quand même quelque chose, bien que les vertus soient infuses, il y a quelque chose d'acquis, il y a ce progrès. Nous sommes, vous voyez, la foi ou la charité nous est donnée gratuitement, mais nous sommes responsables de la croissance de la charité. Nous sommes responsables de notre croissance de foi. C'est ce qu'il faut souvent répéter, ça. Alors, nous sommes responsables de la croissance de notre charité et de notre foi. Alors, si cette croissance s'est faite pendant un certain nombre d'années, ça c'est acquis pour l'éternité. Si nous ne faisons pas de bêtises et si nous demandons pardon, c'est acquis pour l'éternité. Donc, Dieu nous le rend. C'est ça qui est très beau. Oui. Oui, oui, bien sûr. Se donnent pas, parce qu'ils sont petits, donc ils ne pêchent pas par an.
Mais à ce moment-là, on échappe
à la possibilité de la chute. La possibilité de la chute reste toujours. On ne peut pas dire, enfin, on ne peut pas dire. Vous voyez, Thérèse dit ça, on comprend très bien comme elle le dit. On lui aurait dit, mais alors, est-ce que parce qu'on est petit, on ne peut pas. En tant que petit, vous ne pouvez pas pêcher. Mais en tant qu'homme petit ou femme petite, vous pouvez pêcher. Vous voyez, c'est le sujet. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous rédupliquez sur la grâce, la charité ne peut pas pécher. Mais le sujet qui vit de la charité peut pécher tant qu'il est sur la terre. Alors il faudrait regarder ce que Saint Jean de la Croix dit que quand on est arrivé au mariage mystique, on ne peut plus pécher. Il faut bien comprendre ces choses-là, parce que l'Église a condamné au XIIe siècle ceux qui prétendaient qu'ils étaient arrivés à un degré tel qu'ils ne pouvaient plus pécher. L'Église a condamné ça. Jusqu'au bout, il reste en nous la capacité de pécher. Même Marie pouvait pécher. Il ne faut pas l'oublier. Et elle était petite. Même Marie pouvait pécher. C'est que le sujet, tant qu'on est sur la terre, on est dans un état de peccabilité. Oui. Et je dis, les illuminés du XIIe siècle prétendaient qu'ayant reçu telle grâce, ils ne pouvaient plus pécher. Bien, l'Église a condamné. On ne pourra plus pécher que quand on verra Dieu face à face. Et tant qu'on ne voit pas Dieu face à face, notre volonté peut oublier l'amour. Peut se détourner. Bon.